Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, saison 2, jour 2. Au menu, médias et culture au sens large. Tiens, aujourd'hui, nos indispensables du cinéma avec les sorties de demain et une web-série décapante. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu aux alentours de 10h20. Avant cela, Bertrand Chameroy pour son écran de veille et Eva Rock pour le zapping du lendemain. Nous sommes ensemble pour 2h en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre info média concerne un documentaire saisissant sur Carlos Ghosn, son ascension et sa chute. En passant par la fuite, beaucoup de zones d'ombre que vous allez découvrir. Son réalisateur sera avec nous. Puis nos invités, Marc Feuillet, le directeur général du groupe Figaro, qui se réjouit des bons résultats de son titre, mais qui se désole de la crise de la presse dont il est également aussi victime. Il nous dira aussi ce qui nous attend dans la bataille avec Google. Enfin, Olivia Ruiz, la chanteuse pour son premier roman, La commode au tiroir de couleur. Et si vous dites encore une chanteuse qui sort en roman, je vous réponds ce qu'on écrit le point. Ce livre est un coup d'éclat et un coup de maître. Bim ! Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bim ! Place au journal des médias. C'est quoi le sommaire du jour ?
Le retour des talks en chiffres, une histoire d'espionnage, les gagnants et les perdants des audiences du mois d'août et une première historique à la télé britannique.
Et on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télé ?
Surprise, France 2 prend la première place avec le lancement de La Garçonne avec Laura Smet. Les deux premiers épisodes de cette mini-série française ont attiré 4,3 millions de curieux pour 19,6% de part d'audience. TF1 se contente de la deuxième place avec la fiction inédite Trop jeune pour moi. En moyenne, 3,7 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 19,8% du public. Et M6 est troisième avec un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine assez en forme. 3 millions de téléspectateurs ont suivi Philippe Etchebest, c'est 13,7% pardon, du public. Sur les femmes de moins de 50 ans, M6 est leader et largement à 27%. C'est plus de 7 points d'avance sur TF1.
Merci beaucoup. Non, pas merci beaucoup. La suite.
Culture Média.
J'étais obnubilé par la suite des audiences car c'est votre première info du jour. C'était très 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 attendu. C'est le point sur les audiences des talks hier soir, Charles.
Voilà, on en parlait hier matin. Les trois talks principaux de l'Access étaient tous les trois de retour ce lundi. Quotidien sur TMC, C'est à vous sur France 5 et Touche pas à mon poste sur C8. Dans le détail, hier soir de 19h45 à 21h25, C8 a fédéré 684 000 téléspectateurs devant Touche pas à mon poste d'abord et Apprendre ou à laisser ensuite pour 3% de part d'audience. L'an dernier, sur un horaire quasiment similaire, puisqu'on a essayé de comparer ce qui était comparable, la première et la deuxième partie de TPMP avaient réuni 1,1 million de personnes pour 5,1% de PDA. Donc on a une sensible chute quand même sur un an.
Sur TMC, alors ça a donné quoi le retour de quotidien ?
De 19h25 à 21h25, le talk de Yann Barthès pointe à 1,5 million de téléspectateurs, soit 6,9% du public. L'an dernier, ils étaient 440 000 de moins, avec 5,2% de part d'audience. Très très belle rentrée donc pour quotidien.
Et puis France 5 ?
De 19h à 20h25, C'est à vous et C'est à vous la suite affiche une moyenne de 777 000 téléspectateurs et une part d'audience de 4,1%. C'est à vous est globalement stable sur un an, donc très belle rentrée aussi.
Donc en gros, ceux qui font la très belle rentrée quand même, c'est quotidien.
C'est surtout quotidien, oui.
On part à Hollywood, Hollywood où la réalité a dépassé la fiction.
Alors, je vais vous raconter une histoire qui vous semblera peut-être incroyable, mais elle est bien vraie. Philippe, est-ce que vous connaissez Marisol Nichols ?
Pas du tout.
Alors, c'est une comédienne américaine qui tient l'un des rôles principaux de la série Riverdale, une série pour ados qui est diffusée chez nous sur Netflix. Avant ça, on l'a vu notamment dans Esprit criminel, dans Urgence ou encore dans 24 heures chrono. Mais à côté de son activité de comédienne, elle avait depuis 2012 un autre travail. Elle était agent secret sous couverture et elle luttait contre le trafic d'êtres humains et la traite sexuelle d'enfants. Elle s'est retrouvée face à des proxénètes aux États-Unis mais aussi à l'étranger et elle s'est fait passer pour une mère qui voulait vendre son enfant.
En gros, si on résume, elle a mis ses talents de comédienne au profit d'une bonne cause.
Voilà, et cette histoire incroyable a inspiré la télé. Donc la fiction rejoint, enfin la réalité rejoint la fiction. Le studio Sony a acheté les droits de son histoire, va travailler sur une adaptation en série. Marisol Nichols en sera l'une des productrices exécutives et il n'est pas exclu qu'elle interprète son propre rôle.
On revient aux audiences. Hier, Médiamétrie a publié les audiences mensuelle cette fois de la TNT.
Voilà, on part sur le mois d'août et comme chaque mois, il y a des gagnants et des perdants. En tête, TF1 conserve la pole position, pas de surprise à ce niveau-là, avec 19,4% de part d'audience en moyenne sur le mois d'août. C'est le meilleur mois d'août de la chaîne depuis 2017 et c'est aussi 0,7 points de plus qu'en juillet où la Une avait atteint son plus bas historique. Le succès du match PS Bayern notamment ou le retour de Koh-Lanta n'y sont pas pour rien. France 2 est globalement stable sur un mois et sur un an, à 13,7% de part d'audience, bien aidé par ses après-midi et son access, tandis que France 3 prend la troisième position à 9,8% de part d'audience. C'est un bon score qui s'explique notamment, on l'a répété plusieurs fois d'ailleurs ces derniers jours, par la très bonne santé de ses fictions françaises en prime, même quand elles sont rediffusées.
Mais France 2 qui n'a pas été aidée par l'absence du Tour de France et l'absence des JO.
Donc ils s'en sortent pas mal.
Du côté des perdants, qui retrouve-t-on ?
On retrouve d'abord M6 qui a passé un mauvais été. Après un juillet catastrophique, la chaîne a repris des couleurs le mois dernier, mais elle signe quand même l'un des pires mois d'août de son histoire à 8,2% de part d'audience seulement. Sur les 30 soirées du mois d'août, il n'y en a que 11 qui ont passé les 10% de part d'audience. Les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour TMC, qui donc doit être assez content de retrouver Quotidien. TMC qui était donc au plus bas depuis 11 ans pour un mois d'août à 2,6%, et les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour France 4, qui subit le même sort, son pire mois d'août à 1,1% de part d'audience. Pire mois d'août, pardon, depuis 11 ans.
Et les gagnants ?
Les chaînes du groupe Next Radio TV pour commencer. BFM TV pointe à 2,7%, soit son meilleur mois d'août depuis 4 ans. Et les chaînes RMC Découverte et RMC Story égalent leur record historique à 2,5% et 1,8% de part d'audience respectivement. Belle performance aussi pour la chaîne L'Équipe qui signe son record historique d'audience à 1,8%.
Et vous avez tenu à terminer ce journal avec une première à la télévision britannique.
Et oui, un pénis en érection, Philippe. Hier soir, la chaîne Channel 4 proposait un documentaire dont le sujet n'était pas franchement mystérieux puisqu'il s'intitulait « Moi et mon pénis ». Pas très poli comme formulation quand on y réfléchit, on aurait préféré « Mon pénis et moi ». Mais je m'égare. Au sommaire, donc, une série...
Oui, revenez à l'info.
Une série d'entretiens menés par l'artiste britannique Adjamou X qui interroge des hommes sur leur rapport à leur sexe mais aussi sur ce que signifie être un homme en 2020. Je cite, dans ce film drôle et émouvant, le pénis est une passerelle via laquelle explorer tous les aspects de la masculinité selon la chaîne. C'est dans ce contexte que les téléspectateurs de Channel 4 ont pu voir pour la première fois à la télé Outre-Manche un sexe masculin en érection. Ils en ont même vu 8 au total, 8 hommes qui ont témoigné et posé nu pendant qu'Adjamou X les interviewait.
Mais est-ce qu'on a le droit à la télévision britannique de montrer un sexe en érection ?
Alors la chaîne a pris ses précautions, elle a diffusé le documentaire à partir de 22h pour éviter que les engins en question apparaissent en prime time et elle se cache derrière l'aspect artistique du documentaire. Je cite « Nous vivons à une époque où les gens sont plus ouverts d'esprit, il devrait y avoir moins de plaintes auprès du CSA local, espère la chaîne.
Et dans le même temps, tout est disponible sur Internet et personne ne dit rien. Merci beaucoup Charles Decan. À demain. Dans quelques instants, notre infomédia du jour, c'est le documentaire inédit sur la chute brutale de l'ancien patron de l'industrie automobile mondiale, Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan. Gilles Kayat, réalisateur du documentaire, sera avec nous dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Il a été le grand patron de Renault, de Nissan, de Mitsubishi. Du jour au lendemain, il est devenu le prisonnier le plus célèbre de la planète. Le 19 novembre 2018, Carlos Ghosn, patron star de l'industrie automobile mondiale, est arrêté à la descente de son avion privé à Tokyo. Ces images feront la une de tous les journaux et de toutes les télés. On apprendra rapidement ce qui lui est reproché, très rapidement d'ailleurs. Il aurait masqué une partie très importante de sa rémunération et commis de larges abus de biens sociaux au sein de Nissan, la deuxième firme automobile du Japon qu'il dirige depuis 19 ans. L'ascension et la chute de Carlos Ghosn, c'est le titre d'un documentaire diffusé ce soir sur France 5 dans le cadre de la soirée Le Monde en Face, soirée présentée par Marina Carrère d'Encaus. Bonjour Gilles Kayat.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Tout d'abord, combien de temps vous a-t-il fallu pour convaincre Carlos Ghosn de vous parler longuement ?
Il m'a fallu 6 mois environ. 6 mois.
Quelles conditions vous a-t-il posées ?
Il n'a posé aucune condition. Le film était déjà écrit quand je l'ai contacté. L'idée, c'était de faire un portrait, d'essayer de comprendre comment Carlos Ghosn fonctionnait, comment est-ce qu'on devient Carlos Ghosn d'une certaine manière, et d'essayer d'expliquer par sa psyché une partie des raisons de sa chute en excluant une enquête sur les raisons judiciaires, sur les charges qui pèsent contre lui, puisqu'on n'a absolument aucun accès au dossier des procureurs de Tokyo. Et donc, il me semblait équitable de ne pas lui demander non plus de se justifier par rapport aux charges qui pèsent contre lui, puisque je n'avais pas le dossier d'accusation entre les mains.
Vous voilà. Dites que le film était déjà écrit. Vous auriez fait quoi s'il avait dit non ?
Alors, j'avais prévu cette éventualité, ouais. Évidemment. Disons que j'aurais sans doute rajouté un ou deux personnages de plus que ceux qui sont dans le film. Il a pris beaucoup de place quand il a accepté de parler. Et donc, on avait prévu beaucoup d'entretiens avec des proches ou des gens qui ont travaillé avec lui ou qui le connaissaient bien. Et on aurait développé cette partie-là.
Pourquoi vous êtes intéressé à sa vie, à lui, à Carlos Ghosn ?
Alors au départ, je n'étais pas extrêmement séduit par l'idée de ce grand patron.
C'est une commande de la chaîne, des producteurs ?
Non, c'est pas une idée de vous ? C'est une commande des producteurs. D'accord. C'est pas une idée de moi. Bon, j'ai accepté assez rapidement parce que quand j'ai... Bon, bah, j'ai lu le wiki hein, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il avait fait. Bien sûr, je connaissais le personnage, mais pas plus que ça. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a quand même une histoire incroyable. Ce type né au Brésil, élevé au Liban, qui fait ses études en France, qui grandit, qui grimpe les échelons petit à petit et très rapidement. Enfin, quand on dit petit à petit, c'est vraiment très, très, très vite. Et qui arrive assez jeune à la tête de Renault, de Nissan, puis de Renault. Oui, là, il y a une histoire. Plus, évidemment, son arrestation qui en faisait quelque chose, un objet extraordinaire.
Voilà. Ce qui peut surprendre, c'est le début du documentaire.
Rome, 390 avant Jésus-Christ. Pendant l'invasion gauloise, les Romains se réfugient dans la citadelle du Capitole. Une nuit, les Gaulois tentent d'envahir la citadelle. Sans attendre du renfort, le capitaine Marcus Manlius se précipite vers les Gaulois et à coups de bouclier, repousse les envahisseurs.
Mesdames, messieurs les auditeurs, ce n'est pas une erreur de notre réalisateur, mais on s'est quand même demandé si ce n'était pas une erreur de visionnage. C'était quoi cette idée ?
Oui, alors évidemment,
où voulez-vous en venir ?
Les gens vont peut-être penser qu'ils se sont trempés de chaîne.
Non, parce que comme ils ont entendu Culture Média, ils sauront que c'est ça.
Alors en fait, c'est une métaphore. On dit souvent en France, c'est une phrase qu'on entend dans beaucoup de conversations, la roche tarpéienne est proche du Capitole, c'est-à-dire plus haut vous montez, plus vite vous pouvez tomber et tomber très haut et tomber très fort. Et ben voilà, j'ai voulu illustrer, faire visualiser ce proverbe en allant à Rome et en tournant des images de drones autour du forum de Rome et de la roche tarpéienne qui aujourd'hui existe encore, elle est là. Alors elle est un peu bétonnée, mais elle existe. Et essayer de montrer que cette histoire de Carlos Ghosn, eh bien voilà, c'était l'histoire d'une chute extrêmement brutale d'un type qui était tout en haut du pouvoir. Voilà. Et le film commence comme ça.
Et donc, en ce sens, histoire universelle, peut-être pour ça qu'elle a passionné absolument la planète.
Absolument.
Particularité de ce doc, la première personne, Carlos Ghosn y raconte sa propre histoire. Vous interrogez également ceux qui l'ont connu, ceux qui ont travaillé avec lui en France, au Japon. Il y a très peu de commentaires journalistiques. Pourquoi ce choix ?
Alors je vais essayer de rappeler une évidence. Moi-même, je ne suis pas journaliste, je suis documentariste. Mon capital, c'est de pouvoir raconter des histoires. Et pas mal de personnes m'ont dit, mais il n'est pas contredit. Non, il n'est pas contredit. Il raconte son histoire et les gens qui sont autour de lui, qui l'ont connu en première main, ce n'est pas des journalistes qui parlent, qui ne l'ont jamais rencontré et qui ne travaillent que sur du papier ou sur Google aujourd'hui. Moi, j'ai voulu rencontrer les gens qu'il avait connus, je voulais savoir un tout petit peu comment il fonctionnait, comment il était cortiqué, comment on devient Carlos Ghosn, comment on devient un grand patron global. C'est quoi sa méthode de fonctionnement ? C'est quoi ses origines ? C'est quoi ses études ?
Qui lui pose la question ?
Alors c'est moi, et Rémi Dessart, qui est co-auteur avec moi du film, et qui est venu à Beyrouth avec moi, et avec qui on a fait l'interview.
Il a l'interview à Beyrouth chez lui ?
Alors non, c'était pas chez lui, c'est dans un endroit qu'on a trouvé, mais non, il a refusé que ça se passe chez lui. Et à vrai dire, je crois même que je n'ai jamais posé la question, ça me semblait tellement évident.
Comment il est ? Quelle impression humaine vous a-t-il faite ?
Je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai rencontré la même personne plusieurs fois. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le combat, qui n'a pas le temps ou qui ne veut pas, en tous les cas pas publiquement.
Je vous interromps tout de suite. Ouais. Il est dans le combat. Il se bat contre quoi ? Contre qui ?
Alors aujourd'hui, il se bat pour prouver son innocence. La justice française enquête sur lui. La justice japonaise continue à enquêter sur lui. Il a un mandat d'arrêt international qui l'empêche de voyager, de se déplacer hors du Liban. Liban qu'il a choisi de rejoindre de son propre fait. Donc bon, voilà, on va pas le plaindre là-dessus.
Sinon, il a fait une croix sur ses autres activités.
Je ne connais pas ses activités aujourd'hui. En tous les cas, je pense qu'il est consulté, puisqu'il a, il reste quelqu'un de très, très, très performant dans l'industrie automobile.
Gilles Caillat, devant votre caméra, Carlos Ghosn revient évidemment sur ce jour de novembre 2018 où tout a basculé pour lui.
La personne qui examine les passeports me dit « Il semble qu'il y a un problème avec votre visa. » Et donc, il m'a demandé de l'accompagner dans une salle qui était à côté. Et c'est là où la personne qui s'est présentée comme étant du bureau du procureur de Tokyo est venu me voir pour me dire, voilà, Monsieur Ghosn, nous, on a quelques questions à vous poser, on aimerait bien que vous nous accompagniez. Nous avons des informations comme quoi il y aurait des problèmes autour de vos déclarations salariales. Bon, je tombe des nues. Je lui dis, écoutez, je suis navré, mais moi, j'ai ma fille qui m'attend, qui est de passage à Tokyo, qui m'attend, elle va s'inquiéter. Il m'a dit, ah, je ne pouvais plus utiliser votre téléphone.
Il n'a vraiment rien vu venir.
Ah non, il est tombé de la roche tarpéienne, hein, vraiment, en l'espace de quelques minutes.
Hein. Il y a des images de prison japonaise. Vous avez tourné là où il a été enfermé ?
Oui.
Avec des autorisations spéciales, c'était facile à obtenir.
On ne peut pas rentrer dans une prison japonaise ou dans une prison de toute façon sans avoir des autorisations spéciales. Oui, ça a été une longue négociation que je n'ai pas menée moi, mais la personne, le journaliste avec qui je travaillais au Japon, qui a mené ces négociations et qui a expliqué notre propos, et on a fini par convaincre.
Pour comprendre son ascension et la chute de Carlos Ghosn, vous remontez à son enfance, sa scolarité, c'est à suivre dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gilles Kayat, c'est le réalisateur du documentaire L'Ascension et la Chute de Carlos Ghosn qui sera diffusé ce soir sur France 5 dans le cadre de la soirée Le Monde en Face présentée par Marina Carrère-Dancos. On parle de Carlos Ghosn pour comprendre son ascension et sa chute. Vous remontez à son enfance, à sa scolarité. Est-ce qu'il faut remonter si loin pour comprendre ce qui s'est passé 40 ans plus tard ?
Alors oui, je crois qu'il faut remonter loin. Les blessures d'enfance ou les attitudes d'enfance sont souvent prémonitoires de ce que vous allez être à l'âge adulte.
Ce sont quoi les blessures d'enfance de Carlos Ghosn ?
Alors, il y en a une principale. C'est le fait que son père était un malfrat et un escroc, qu'il a été attrapé par la justice libanaise pour avoir ordonné l'exécution, l'assassinat d'un curé libanais qui faisait du trafic de diamants pour lui entre l'Afrique noire et le Liban. Il a été arrêté, il a été jugé en 1960, il a été condamné à mort. Le père de Carlos Ghosn a été condamné à mort et sa peine a été commuée en peine de prison qu'il a effectuée aux deux tiers. Il a été condamné à 15 ans puis il a fait 10 ans. Il est ressorti de prison au moment où Carlos Ghosn lui quittait le Liban pour la France pour entrer en prépa Matsup Matspé.
Oui, il faut y arriver, il est allé jusqu'à...
Donc c'est une vraie blessure dont il a refusé... Sur laquelle il a refusé de s'exprimer. Voilà, c'est son choix. Nous, on essaye de raconter toute l'histoire. Et évidemment, la personne que vous interrogez est libre de refuser ou pas de répondre aux questions.
Vous avez écrit un synopsis du film, puis vous avez fait les interviews. Qu'est-ce que vous avez découvert ensuite en faisant les interviews, les témoignages des proches, des anciens collègues ?
À la fois que les clichés qu'on entendait dire sur Carlos Ghosn étaient parfois vrai et évidemment parfois faux. C'est-à-dire, j'ai à la fois découvert un homme chaleureux qui savait tisser des relations et j'ai aussi découvert ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire un homme cassant, un peu arrogant, sûr de lui, dominateur, des gens et des événements. Quelqu'un qui était vraiment, sans doute, qui se sentait supérieur aux autres. Et ça, oui, ça confirmait certaines choses qu'on entendait, mais c'est toujours plus fort que de l'entendre de la bouche des gens qui l'ont véritablement connu.
On le découvre dans votre doc, sa première expérience de patron, ça se passe au Puy-en-Velay, en Auvergne. Il a seulement 26 ans et il est directeur d'usine chez Michelin.
Mais moi, j'étais un peu l'extraterrestre. Hein. J'étais le Brésilien, Libanais, polytechnicien, ingénieur des mines, Popo le tanneur qui travaille à l'usine du Puy. J'étais un peu, en plus, qui a 27 ans. Donc pour eux, j'étais un objet de curiosité. Patron d'usine du Puy, vous êtes tout le temps dans l'atelier. Hein. Mais moi, j'ai jamais eu de difficulté à travailler avec des gens de tout calibre, de tout poste, de toute formation. J'ai jamais eu ces difficultés. J'ai dû casser la croûte avec mes collègues. On allait boire le pot avant de rentrer pour faire l'équipe. On mangeait des saucisses à 8 h du matin avec un coup de rouge. J'aimais ça. Hein.
Comment il s'est retrouvé, le patron d'usine Michelin ?
Bon, d'abord, je pense qu'il a eu un parcours brillant. Il faut pas oublier une chose sur Carlos Ghosn, ça n'est pas un financier, c'est pas quelqu'un qui a été formé au trading, à la finance, il n'a pas fait l'école de gestion.
Non, les mines polytechniques, c'est des études d'ingénieur.
D'ingénieur, c'est un ingénieur. Les ingénieurs travaillent avec tout le monde, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils ne peuvent pas travailler tout seuls, ils travaillent en équipe. Un ingénieur peut rien faire tout seul. Donc la culture ouvrière, je dirais d'une certaine manière, aussi bizarre que ça puisse paraître, fait partie de la culture de Carlos Ghosn, car c'est le premier contact contact qu'il a eu, c'est d'aller à l'usine. Quand il est arrivé chez Michelin, il a fabriqué des pneus pendant un an avec ses propres mains. Donc c'était la culture Michelin. C'était la culture Michelin que de faire un long stage en usine et d'être, je dirais, au contact du produit. Quoi.
Il apparaît sympathique, il apparaît proche des salariés dans ces phases-là. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous n'avez pas eu peur de tomber un peu dans la géographie ?
Oui et non, mais les faits sont têtus d'une certaine manière. Si vous ne racontez pas cette partie-là, vous tombez encore plus dans le cliché dont on entend parler sur Carlos Ghosn depuis plus de 15 ans. C'est un homme, c'est un salaud de patron, de droite, il licencie, etc. Il faut savoir que, comme tout homme et comme toute femme, il s'est construit au contact de son environnement et que son environnement est important pour comprendre comment il fonctionne un peu plus tard.
En voyant le documentaire, on a l'impression, et on voit même que tout lui réussit, rien ne lui résiste. Est-ce que vous pensez que c'est parce que tout lui réussit toujours qu'il a pu, d'une certaine manière, perdre le sens des réalités ?
Le sens des réalités, je ne sais pas. Je pense qu'il a quand même les pieds sur terre, ou les deux pieds dans le même sabot. Mais oui, je crois qu'il s'est détaché au fur et à mesure, je dirais, du quotidien, des problèmes du quotidien. Parce que d'abord, c'était plus son rôle que de s'occuper des problèmes du quotidien. Mmh. Et quand on ne s'en occupe plus, eh bien, et c'est là où il était très 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 bon. C'est-à-dire dans le quotidien, finalement, dans les décisions quotidiennes, dans la rapidité. Et quand il n'avait plus cette rapidité à sa disposition, il n'avait plus besoin de prendre ses décisions quotidiennes. Oui, je crois qu'il s'est perdu. C'était pas sans doute un immense stratège. Et comme il le dit lui-même dans le film, je crois qu'il avait peu de flair politique.
Vous intéressez pas du tout, très très peu, à ce que lui reprochait. On rappelle qu'il aurait masqué une partie importante de sa rémunération. Il aurait commis de larges abus de biens sociaux au sein de Nissan. Vous n'évoquez l'affaire qu'à 8 minutes de la fin du doc. Pour quelle raison ?
Alors, c'est ce que je vous ai dit au début de notre entretien, c'est-à-dire que moi je n'ai pas accès au dossier, on n'a pas pu avoir accès au dossier des procureurs, ni pu interroger les procureurs ou même des représentants de Nissan au Japon pour qu'ils nous disent ce qu'on peut reprocher à Carlos Ghosn. Et de la même manière, de manière équitable, je n'ai pas voulu demander à Carlos Ghosn de se défendre par rapport à un dossier que je n'avais pas entre les mains. Donc voilà, c'était aussi cette idée qu'il fallait que le film reste pérenne. La vérité judiciaire peut évoluer d'une minute à l'autre, d'une certaine manière. Le film, lui, je voulais qu'il reste comme une étude de caractère.
Et puis une affaire dans l'affaire, 4 mois de préventive au Japon, il est libéré sous caution, je rappelle les faits, il est placé en résidence surveillée et 10 mois plus tard, en pleine préparation de son procès, il organise sa fuite vers le Liban, il se serait caché dans une grosse malle d'instruments de musique, il atterrit à Beyrouth. Et là non plus, vous ne le faites pas parler de cet épisode. C'est un choix personnel ou ça faisait partie des conditions qu'il vous avait imposées pour accepter ce doc ?
Bon, les conditions, non. Il n'a jamais répondu à aucune question concernant sa fuite du Japon.
Il n'a jamais. Mais c'est ça un documentaire. Oui, c'est d'arriver à faire dire
posé,
quelque chose
je lui ai
que la
posé
personne
la
n'avait
question,
jamais.
Il a refusé d'en parler et en me disant qu'il réservait ses confessions pour le bouquin qui va sortir au mois de novembre. Et donc voilà, il a joué sa partie à lui, j'ai joué la mienne, du mieux que je pouvais.
Novembre 2020
Son bouquin, oui.
Novembre 2020. Donc on saura dans deux mois s'il était ou non dans une malle.
Je n'en sais rien parce que je n'ai pas lu le bouquin.
Ben moi non plus. Merci beaucoup Gilles Kayat, réalisateur du doc L'Ascension et la chute de Carlos Ghosn. C'est ce soir sur France 5, dans le cadre de la soirée Le Monde en Face, soirée présentée comme à l'accoutumée par Marina Carrère-Dancos. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci Philippe.
Dans quelques instants, le directeur général du groupe Figaro, c'est Marc Feuillet qui sera avec nous. Il va nous dire tout sur la rentrée du quotidien entre contexte difficile et nouveautés numériques. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Marc Feuillet.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes directeur général du groupe Figaro, donc le Figaro, tous ses suppléments, toutes ses activités numériques, on va en parler. Mais d'abord la question basique, c'est aujourd'hui la rentrée des classes. D'abord, comment se passe la rentrée pour le Figaro dans un contexte morose, pour ne pas dire difficile, avec la crise du coronavirus ?
Alors c'est une rentrée active et puis évidemment on est soucieux de la conjoncture. Vous imaginez, on a passé un premier semestre exceptionnel, comme tous les médias, avec ce confinement. Et pas un seul jour, on a manqué à nos lecteurs, dans des conditions logistiques et évidemment très difficiles qu'ont connues tous les médias. Et cette rentrée, eh bien, de nouveau, des mesures sanitaires et le port du masque et évidemment une conjoncture économique morose. Donc une rentrée active, mais évidemment nous sommes soucieux.
Vous n'avez pas manqué aux lecteurs, mais est-ce que les lecteurs vous ont manqué ? L'an passé, vous avez fait très fort, une diffusion totale de 333 057, sont très importants, exemplaires par jour, en hausse de 5%, après une hausse déjà de 2,33% l'année précédente. Et cette année, vous attendez à quoi ?
Alors, on s'attend à une stabilisation, voire même à une légère progression. L'organisme qui mesure la diffusion,
La CPM,
a décidé de neutraliser les trois mois pendant lesquels, évidemment, le confinement a complètement perturbé la mesure et la comptabilisation des exemplaires.
Parce que ça fausse les chiffres.
Ça fausse les chiffres. Et puis, nous avons deux autres bons chiffres. D'abord, la mesure de la notoriété de la marque Figaro, où nous sommes en tête du classement ACPM, cette fameuse étude qui s'appelle One, et qui mesure l'empreinte de la marque auprès de tous les lecteurs, qu'ils soient imprimés ou qu'ils soient digitaux. Ça, c'est évidemment une grande fierté pour nous. Et puis, l'audience médiamétrie de juin, car nous n'avons que celle de juin, sur l'audience internet des sites où nous sommes en tête devant France Info.
Je rebondis sur ce mot de notoriété. Parfois, la notoriété peut être négative. Il y a un journal qui vend très très peu de lecteurs dont on ne cesse de parler. Ses valeurs actuelles, à cause de la une, avec la députée Danielle Obono présentée nue en esclave. Qu'avez-vous pensé de cette une ?
J'ai été stupéfait. Et,
pas plus que ça.
C'est... évidemment indigné, c'est une faute. Et je crois en tant que directeur de médias, c'est ce qu'on redoute le plus. C'est l'erreur qui va détruire tout le travail qui y est fait sur une marque média depuis des années. C'est la mauvaise interview, le dérapage et tout simplement une erreur éditoriale. Alors je crois que les dirigeants du journal se sont excusés, mais évidemment cette faute et cette erreur laisseront des traces.
Une bonne nouvelle, c'est assez rare pour être signalé, une bonne nouvelle qui est arrivée jeudi. Le président de la République a présenté au patron de presse un plan de relance. L'État va débloquer 483 millions d'euros sur les 2 milliards prévus pour le monde de la culture. La plus grosse part de la somme va servir à soutenir la distribution de la presse qui obtient 156 millions. Est-ce que Presstalis est sauvé ou est-ce que ça va devenir ? Je rappelle que c'est le principal distributeur de la presse. 3 journaux sur 4 en France et magazines sont distribués et étaient distribués par Presstalis qui est en cessation de paiement.
Alors voilà, en fait, pendant le confinement, ce qui explique qu'on a vécu une période absolument incroyable, l'entreprise est allée en faillite, a déposé son bilan. Elle s'est transformée, elle s'appelle maintenant France Messagerie. Et c'est vrai que sans le soutien à la fois de tous les éditeurs, qui ont perdu 120 millions d'euros dans cette débâcle financière.
C'est de l'argent que devait rembourser Presstalis, que vous n'avez jamais vu revenir.
Exactement. Toutes nos ventes, d'ailleurs, qui étaient assez bonnes, pendant le confinement, ont été perdues puisqu'elles ont servi à financer ce dépôt de bilan.
Pardonnez-moi, vous avez fait une croix dessus ou au contraire, cette aide de l'État va servir à renflouer ?
Non, cette aide de l'État va servir à faire repartir l'entreprise et puis à dédommager les salariés qui ont perdu leur emploi parce qu'il y a eu beaucoup de suppressions de postes consécutives à cette faillite. Il y a eu 500 emplois qui ont été supprimés.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les journaux qui attendaient de l'argent de Presstalis peuvent faire une croix dessus, s'asseoir dessus en sachant que Presstalis n'existe plus ?
Oui. C'est une perte sèche de 120 millions d'euros pour le secteur.
Vous revenez de loin. Il y a eu le Covid, il y a eu plein d'affaires comme ça. L'an passé, vous avez revu votre offre complète d'abonnements numériques. Combien d'abonnements numériques maintenant ?
Alors, nous aurons 230 000 abonnements purement numériques à la fin de l'année.
Oh, dis donc.
Plus de 300 000 abonnés à terme, à toutes nos formules. Je crois que c'est la bonne nouvelle aussi
du Covid,
une accélération évidemment de l'intérêt de nos lecteurs pour les offres payantes et on voit que les lecteurs sont prêts à payer pour cette information singulière dont on pense qu'elle est la nôtre et finalement tout ce succès récompense le travail de toute la rédaction.
230 000, dites-vous ?
Oui, aux offres purement numériques, à toutes nos formules, auxquelles évidemment on vient rajouter les offres imprimées, sachant que tout abonné au Figaro, dans sa forme imprimée, est aussi abonné, évidemment, au format numérique.
C'est quand même une performance que vous étiez à seulement 22 000 abonnés en 2015, donc c'est encore plus que x10. Vous allez continuer à proposer de nouvelles offres ou là, vous êtes complet ?
Alors, on continue à proposer de nouvelles offres. On a ouvert toute une section sur les loisirs, le tourisme, sur le site internet du Figaro. On a développé aussi beaucoup de newsletters spécialisées. Mmh. Les journalistes s'adressent directement aux lecteurs en fonction de leur spécialité internationale, politique, culture, religion.
Et il y avait une newsletter coronavirus, 7 jours sur 7, on avait des infos là-dessus. Elle est pérenne, elle continue ou vous l'avez arrêtée puisque...
On continue évidemment à donner beaucoup d'informations puisque c'est la grande préoccupation de nos concitoyens.
Donc elle existe toujours.
Elle va évidemment se poursuivre sous d'autres formes.
Vous avez créé des nouvelles rubriques, par exemple le Figaro et vous qui est devenu le Figaro chez vous.
Voilà, et qui redevient le Figaro et vous avec la rentrée. Je crois qu'on a considérablement adapté notre offre aux préoccupations de nos lecteurs. Il y a eu un moment où nos lecteurs voulaient qu'on parle d'eux-mêmes, de leur environnement, de la manière dont ils vivaient cette épreuve de confinement. Et au fond, ce succès du Figaro, qu'on vient de souligner par ces chiffres, c'est aussi sa capacité à s'adapter en permanence aux offres éditoriales différentes, aux modes de distribution différents, mais tout en gardant ses valeurs. Et je crois que c'est ça qui explique notre réussite.
On va parler aussi du mode de distribution, parce qu'il y a eu des crises, avec notamment La Poste qui avait refusé à un moment donné de distribuer jour après jour les journaux. Vous étiez venu d'ailleurs en parler ici dans Culture Média. Et puis aussi, comment vous avez fait ? Il y a eu le portage. On sait qu'à cause de la crise à Presstalis, à Lyon et à Marseille, certains journaux n'étaient pas distribués. Vous avez échappé à...
Alors c'est un paradoxe parce que toutes nos imprimeries et tous nos porteurs ont continué à travailler chaque jour pendant le confinement et encore maintenant. Et ce qui a fait un peu défaut, je dois dire, pendant cette période de confinement, c'est évidemment le service postal qui a eu de très gros problèmes d'organisation, même si maintenant tout rentre dans la normale. Et puis évidemment, on a toujours des difficultés de distribution dans les Bouches-du-Rhône, et j'en profite pour saluer les marchands de journaux de Marseille, d'Aix-en-Provence, aussi de Toulon, qui ont beaucoup de difficultés d'approvisionnement. On fait le maximum, mais c'est vrai que là, la situation sociale est très crispée et nous sommes souvent empêchés d'être distribués.
Qu'appelez-vous par empêcher ?
Empêcher, nos véhicules sont bloqués par les ouvriers ex-Prestalis qui contestent évidemment les modalités de leur départ. Je dirais, au-delà du conflit social, il y a quelque chose qui est impossible, c'est empêcher la distribution de l'information. C'est un bien pour nos concitoyens et c'est ça qu'il faut qu'on essaye de remettre en marche à cette rentrée de septembre.
Vous restez avec nous, Marc Feuillet, vous êtes directeur du groupe Figaro. On a encore plein de questions à vous poser, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Marc Feuillet, directeur général du groupe Figaro, et vous étiez jusqu'à une date récente, jusqu'à cet été, président du syndicat de la presse quotidienne nationale. Désormais, vous êtes remplacé par Pierre Louette. J'en parle car il y a un caillou dans la chaussure de tous les éditeurs de presse français, européens et même peut-être même mondiaux, Google et les droits voisins. C'est-à-dire, qu'est-ce que les droits voisins ? Je vais résumer ça, en simplifiant le droit pour les éditeurs de presse dont les contenus sont publiés sur Google, comme sur Facebook d'ailleurs, de toucher une part de la manne publicitaire, comme les radios qui diffusent de la musique gratuitement, payent des droits d'auteur aux chanteurs puisque leur musique est diffusée gratuitement. Le conflit dure depuis des mois, au point que les éditeurs de presse français ont saisi l'autorité de la concurrence. Un accord entre Google et ses groupes d'éditeurs, il y a aussi les agences de presse, il y a aussi l'AFP, aurait dû être trouvé au 18 août. Si j'en parle maintenant, c'est que cet accord n'a pas été trouvé. Où en est-on ?
Alors, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse. Et je dirais, ça fait 10 ans qu'on est dans l'impasse. Ça fait 10 ans, Philippe, qu'on discute avec Google par tous les moyens possibles. Il y a eu, à un moment donné, en 2012, une intervention du président de la République, François Hollande. Il y avait eu un accord qui avait été passé. Il y a une loi qui a été votée depuis un an.
En France.
Une loi est votée en France qui n'est pas appliquée. Il y a deux catégories, je dirais, de citoyens en France. Il y a les entreprises et les citoyens français qui appliquent les lois. Et il y a, je dois le dire, les plateformes américaines qui ne les appliquent pas.
Concrètement, je vais essayer d'expliquer comment ça se passe pour que les gens comprennent bien. La position de Google a été résumée par Marc Reiss du site Pro Next Impact. Voilà, il dit « Il est reproché à Google de contraindre les éditeurs à choisir entre la peste et le choléra. Soit accepter la reprise de leurs extraits d'articles sans rémunération, ou alors, s'ils ne veulent pas, se priver de cette présence sur Google News. »
Alors, c'est évidemment un choix que nous refusons, puisque nous disons que nous devons être indexés, comme avant, et nous devons
indexer,
aussi...
c'est-à-dire qu'on vous retrouve.
Indexer, c'est-à-dire qu'on
nous retrouve. Et on trouve le papier du Figaro qui concerne ces trois mots-clés.
Imaginez un Internet en France privé de sources d'information. Mais ce serait la place à toute la désinformation, aux fake news. Ce serait accentuer le chaos et le désordre qu'on vit déjà d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est évidemment un impératif. Et je dois dire qu'il y a eu une décision de l'autorité de concurrence très courageuse et très ferme au premier semestre de cette année.
Allez-y.
Une période de négociation a été ouverte qui se terminait au 18 août. Et nous avons constaté l'échec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Google a fait appel de cette décision de l'autorité de concurrence. Et nous avons saisi de nouveau l'autorité de concurrence pour faire constater que nous n'avançons pas de bonne foi dans les discussions. Je crois qu'à un moment
donné...
Vous étiez
dans les réunions ?
J'étais dans
J'aimerais
les réunions.
J'aimerais vraiment, avec la petite souris, savoir ce qui se passe. Bon, comment vous êtes quitté ? Vous êtes quitté en disant « Bon, ben salut, on ne peut pas se parler ?»
Ce sont des réunions qui sont souvent interminables, qui tournent en boucle. Ça fait 10 ans qu'on tourne en boucle. Ça fait 10 ans qu'au fond, Google refuse cette perspective qui est de rémunérer les éditeurs.
Au nom de quel argument ?
Au nom du fait que l'information que nous proposons aux lecteurs doit être gratuite et que nous sommes rémunérés en quelque sorte par l'audience que les internautes nous donnent via le moteur de Google. Simplement, il y a une réalité. 92% des recherches en France sur Internet passent par Google. Il n'y a pas d'autre choix. C'est une entreprise qui a une situation maintenant de monopole de la distribution. Comme Facebook a un monopole de la distribution aussi, avec Instagram, quasi monopole sur les réseaux sociaux. Et d'une manière générale, nous, ce qu'on demande simplement, c'est que ces plateformes américaines qui intermédient complètement les médias, que ce soit sur le plan publicitaire ou sur le plan de la distribution des contenus, accordent une part de la valeur qu'elles créent grâce à nous à la rémunération de notre offre éditoriale.
Un de leurs arguments, c'est de dire qu'ils ne touchent pas d'argent avec Google News. Vous suivez ce qui se passe en Australie ?
Alors, en Australie, le gouvernement a pris des décisions, je dirais, très courageuses. Il a demandé à Google et aux éditeurs de se mettre d'accord sur une rémunération. Il leur a imposé cette discussion et il a menacé, si cette discussion n'aboutit pas, par la loi, de créer cet équivalent de droit voisin en Australie.
Vous avez vu ce qu'a répondu Google. Google qui menace à mots couverts de retirer purement et simplement Google News, voire même Google et YouTube.
Alors, ce sont les arguments qu'ils ont utilisés il y a un peu plus d'un an.
Avec vous ?
Oui, et avec les éditeurs européens, quand la directive européenne a été votée. Bon, il n'en a rien été. Hein. Ce sont évidemment des menaces. Mais je crois que ce qui compte pour nous, c'est pas simplement de remporter des victoires symboliques, hein, parce que le temps presse pour nous.
J'ai bien compris. Hein. Ce qui compte pour vous, c'est...
C'est à un moment donné d'être rémunéré.
L'Élysée penche, puisqu'on a vu que la situation était bloquée, que c'était un dialogue de sourds, pour la nomination d'un médiateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et qui choisirait ce médiateur ?
Alors, je pense qu'il serait choisi d'un commun accord, peut-être proposé par le gouvernement lui-même.
D'un commun accord entre les éditeurs et le gouvernement, ou entre les éditeurs, le gouvernement et Google ?
Alors,
un commun accord tripartite ?
Je pense entre les éditeurs et le gouvernement d'abord. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce choix de médiateur, et évidemment que Google l'accepte. Pourquoi on veut privilégier la médiation ? Parce qu'évidemment, la voie juridique est très longue. Ce sont des entreprises énormes, elles ont des conseils, elles font systématiquement appel de toutes les décisions, les procédures sont très longues. Et nous, ce qui nous importe, c'est de trouver un accord. Nous vivons avec ces plateformes.
Dernière question, on vous a déjà proposé un nom de médiateur ou pas encore ?
Non, pas encore. J'espère que ce sera un médiateur qui comprendra nos positions et qui trouvera un juste équilibre.
On a l'impression que chacun comprend la position de l'autre et que c'est bien ça le problème. Merci beaucoup Marc Feuillet d'avoir été avec nous,
Merci, directeur général
du groupe Le Figaro. Culture Média qui continue évidemment après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain, Bertrand Chamerois pour son écran de veille, Olivia Ruiz non pas pour un nouvel album mais pour son premier roman, ça s'appelle La commode au tiroir de couleurs. Et puis dans les indispensables, une sélection des sorties cinéma, et oui puisque c'est demain mercredi les sorties films, et puis une série éclairante et humoristique. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.